Voilà, donc ce qui nous rassemble, c'est que tous nous sommes en quête de libération intérieure pour pouvoir aimer vraiment, pour pouvoir vivre vraiment. Jésus nous dit qu'il est la vie. Alors nous avons envie de vivre. J'espère que c'est le cas de chacun de vous ici. Alors, ces petits enseignements visent à baliser un peu le chemin de libération. Voilà. Alors, pardon si j'enfonce des portes ouvertes pour un grand nombre d'entre vous qui est déjà des profs, des pros de toutes ces sciences. Mais voilà. Alors, d'abord, je vais commencer par des petits rappels sur les influences mauvaises, diaboliques, que nous pouvons vivre dans nos vies. Ensuite, je parlerai de quelques signes caractéristiques de ces mauvaises influences. Et puis, on verra ensemble les causes de ces influences. Pardon si vous connaissez déjà tout, vous pouvez m'arrêter, vous pourrez me dire « stop ». Passer à autre chose. Voilà, et puis on terminera en essayant de baliser ce chemin de libération. Donc, les prochaines fois, on va essayer de développer un peu plus chaque étape. Et là, comme on est un peu au début. Bon, la dernière fois, si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, on a exposé le principe surtout de la réparation, c'est-à-dire l'importance de la vie en Dieu. Libéré du péché et la conséquence du péché. On a exprimé le fait que souvent dans nos têtes, le péché c'est un truc moralisant. Mon père, j'ai pas de péché, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Enfin, vraiment, on a dans nos têtes des schémas comme ça qui sont toxiques parce que en fait, on a tous péché, sauf la Sainte Vierge. Jésus, évidemment. Et donc, si nous ne voyons pas la poutre qui est dans nos yeux en permanence, eh bien, il y a des chances pour que ça ne marche pas très bien pour nous. Ça, il y a un saint dont le nom, voilà, est saint Isaac le Syrien, qui dit que celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite les morts. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait insisté sur le fait de la conversion et les conséquences du péché qui, en fait, expliquent pourquoi on va prier aussi pour nos ancêtres. Parce que les conséquences du péché, ce n'est pas seulement notre vie. On avait dit qu'il y avait deux types de conséquences du péché, ce qu'on appelle la peine, temporelle ou éternelle. Et quand vous vous confessez, le prêtre vous donne une pénitence. Le but de cette démarche spirituelle, c'est de nous libérer des peines, quelque chose à réparer qui est plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il y a aussi quelque chose à réparer à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, il y a des réparations, on va dire, matérielles, mais il y a une réparation spirituelle, et là, on parle de malédiction du péché. Le péché entraîne la malédiction, c'est quelque chose qu'on n'entend pas très souvent, malheureusement, dans l'Église catholique, mais il y a quelques voix quand même qui en parlent. Et puisqu'il y a malédiction sur éventuellement plusieurs générations, nous, bonne nouvelle, nous pouvons lever cette malédiction par notre prière. Et c'est le sens de la messe que nous aurons ce soir, pour que les malédictions familiales soient levées. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de ce chemin de libération. D'abord, les influences diaboliques dans nos vies, elles sont de deux types. Elles sont ordinaires et ou extraordinaire. Alors, on a tous des influences ordinaires. L'influence ordinaire, c'est d'abord la tentation. Je ne vous fais pas de dessin. Donc, on est tenté, certes, parce que nous avons été touchés par le péché originel, et donc, on a une fâcheuse tendance dans certains domaines. Et ça, c'est la tentation aussi qui peut être utilisée par le démon comme un amplificateur. Moi qui suis mauvais, je peux être tenté et le démon va faire en sorte que cette tentation va devenir lancinante jusqu'à ce que je chute. Voilà, première influence ordinaire. Il y a une deuxième influence ordinaire qu'il est bon d'en avoir conscience, qu'on appelle le lien de péché. Si je suis tombé si j'ai accueilli, on va dire, les mauvaises influences, elles peuvent comme s'inscrire en moi. Je suis comme addict. Alors, on distingue quatre types de liens de péché. Le premier type de lien de péché va concerner nos émotions. Et va s'exprimer par une émotion négative qui va surgir d'une façon incontrôlée dans certaines situations. Du style, si tu me grattes un peu, tu t'éclates la figure, c'est plus fort que moi. Alors, sans aller jusque-là, je me mets dans des colères épouvantables. Bon, ou alors, je suis pris d'une peur. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est psy. Oui, mais c'est aussi spi. Parce qu'on est corps, âme, esprit. Alors d'accord, parfois il faudra travailler le côté psy. Parce qu'effectivement, le démon va profiter de nos blessures. Mais c'est vrai que nous avons des émotions qui partent plus vite que nous. Et là, on va parler aussi de liens de péché. Voilà. Je pense au père Guy Lepoutre, qui était en 64 pendant un certain temps. Et il nous racontait comment, après une confession toute simple, tout simplement, il a prié pour l'homme qui demandait pardon à Dieu pour ses colères. Et là, il avait un lien de péché contre la colère. Et bonne nouvelle, le monsieur a été très bien. Comme quoi, il est conseillé aux prêtres aussi de pratiquer des prières de délivrance, de coupure, de lien, notamment après une confession. Parlez-en à vos confesseurs, s'ils ne savent pas qu'ils viennent nous voir, on leur expliquera. Il y a un autre type de lien de péché qui va toucher nos pensées. Nous avons parfois des schémas de pensée qui nous envahissent, qui sont quasi obsessionnels. Alors parfois c'est des forteresses, j'ai des conceptions sur Dieu, le Père, et j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai des conceptions sur la Sainte Vierge. Bon, vous voyez, moi je vous fais une confidence, il y a un moment où, les statues en plastique de Notre-Dame de Lourdes m'ont un peu éloigné de la Sainte Vierge, j'avoue, parce que c'était fatigant, quoi. Ben, j'aime bien les belles statues, etc. Bon, ben, voilà, là, il y avait peut-être un lien, d'accord. Mais il y a des liens plus difficiles à déraciner, des forteresses. Par exemple, ma conception de l'homosexualité, c'est une forteresse. On a vu un homme qui témoignait dans la rue qu'il était libéré de l'homosexualité après 60 ans. Non, 50 ans. Et il disait 35 ans de sodomie, 35 ans de sodomie. Il a crié vers le trône de Dieu et le Seigneur l'a libéré. Alléluia. Maintenant, il est marié, il a des enfants. Et ça s'est passé en 15 secondes. Bon, j'espère qu'il n'y a personne de LGBT ici, sinon je me fais casser la figure. Bon, enfin bref, Donc là, il y a dans nos schémas de pensée des forteresses qui vont comme garder des structures de péché. Vous voyez ? Voilà. Et hein, au niveau de la sexualité, il y a bien d'autres exemples qu'on pourra donner sur nos conceptions qui sont des forteresses. Voilà. Être dans une relation d'amour, sexualisée, alors qu'il n'y a pas d'alliance sacrée, ça peut être aussi une forteresse maintenant, vous voyez ? Mais c'est une ouverture aux influences diaboliques, on le verra tout à l'heure. Ensuite, eh bien, il y a un autre lien de péché, évidemment, qui va toucher notre comportement lui-même, des structures de comportement. Eh bien, ce sont tout le domaine des addictions. Il est bon de prier pour la délivrance des alcooliques, des addicts à la drogue, à l'alcool, à la sexualité, etc., etc., la pornographie. Il y a aussi des addictions aux mensonges. Il y a des personnes qui se confessent toujours de ça, sont toujours dans le mensonge, comme une addiction. Alors, structure de comportement. Enfin, toujours dans ce chapitre des liens de péché, dernier lien de péché que nous allons souligner, c'est des relations dans lesquelles nous sommes et qui nous tiennent comme englués. Par exemple, cette relation à ce guérisseur. Une relation avec un gourou, ce qui n'est pas tellement votre cas, peut-être, si vous êtes ici. Mais les guérisseurs, peut-être. On en parlera tout à l'heure. Voilà, aller voir un médium, ou je ne sais pas quoi. Ou tout simplement des relations affectives, fusionnelles, qui sont des véritables dépendances. L'amour, c'est autre chose que dire à quelqu'un « sans toi, je ne peux pas vivre », comme disait Jacques Brel. « Laisse-moi être l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. » Comprenez bien que l'amour va faire autre chose que nous transformer en une ombre. Quand l'autre devient mon Dieu, mon idole. Ce que j'appelle l'amour vampire. Et après, on s'étonne que dans ces relations-là, ça soit l'échec. Bon, on en parlera une autre fois. Ça, c'était pour les influences ordinaires. On est tous concernés. On est tous concernés. Attention à nos forteresses, nos conceptions, nos pensées. La foi chrétienne n'est pas une opinion, ni une conviction. C'est une confiance que l'on fait dans le Dieu d'amour que nous avons rencontré. C'est autre chose. Alors attention à nos forteresses, y compris qui font que nous construisons nos conceptions même spirituelles. Que la parole de Dieu, la Bible si vous préférez, soit vraiment toujours à notre portée, pour que cette parole s'inscrive en nous à la place de nos forteresses. J'espère que je me suis fait comprendre. Il y a des influences dites extraordinaires. Non, vous n'êtes sans doute pas du tout concernés, ou très peu. Alors, ce sont, on les appelle dans ce cas-là, les vexations, les oppressions, des influences qui vont être extérieures à nous, soit dans notre environnement, soit sur notre corps. Ça ne rentre pas plus loin. Donc ces influences extérieures, c'est les objets qui disparaissent, qui apparaissent, hein, ce qu'on trouve dans la magie, hein. Les pannes inexplicables, bon, tout ça vous connaissez peut-être un peu, la salle de toilette qui prend feu dans la salle de bain toute seule, des trucs comme ça. assez spectaculaires éventuellement, mais qui peuvent nous énerver un peu, des vexations. Bon, façon un peu ordinaire, si vous allez faire une retraite spirituelle, ou si vous venez ici, vous aurez peut-être quelques vexations. Bon, ça c'est pas trop grave, mais ça peut aussi se mettre sur le corps. Bon, ce sont des coups, des impulsions, des piqûres, des brûlures, et on peut le constater. Bon, on donne l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, âgée de 62 ans, qui a été lancée par une force invisible au bas des degrés du cœur. Vous savez, il y a des marches pour monter. Et donc, elle se casse le bras gauche. Et donc, elle a souffert un certain temps à cause de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les vexations ou oppressions. À un niveau plus fort, on va appeler ça l'obsession, donc, qui en général inclut ce premier chapitre. Bon, alors au niveau physique, on retrouve tous ces trucs-là, mais ça peut être plus profond encore, du style plus d'odorat. Où vous entendez des trucs qui ne sont pas réels. Le toucher, on ne supporte plus l'eau, par exemple. Ça fait de l'électricité dans les mains, bizarre, quoi. Bon, on ne supporte plus la lumière, vision. Ça, c'est. Voilà. Voilà des maladies assez extraordinaires, mais sans explication. Voilà. Au niveau psychique, on sera atteint aussi, si vous voulez, la personne n'arrive plus à réfléchir. Et elle pourra avoir des pensées obsédantes, insurmontables. Et enfin, au niveau spirituel, la personne va être très très embêtée dans la pratique des vertus théologales. Donc, n'oublions pas que le démon, y compris dans les influences ordinaires, veut casser en nous les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Donc, la foi, il va vous susurrer. Pas la peine d'aller à l'église, oh, c'est pas la peine de prier, tu vois, tu sais pas prier, puis ça sert à rien. Bon, au niveau espérance, c'est le désespoir, on connaît, hein. On est dans une société assez marquée par la désespérance. Ok, et puis la charité, voilà. Mais ces personnes-là vont avoir aussi beaucoup de problèmes dans leur relation à Dieu. Une très grande difficulté à prier, dès qu'elles commencent à vouloir prier, ça y est, elles baillent, elles s'endorment, ou elles ont beaucoup de mal à rentrer même dans une église, et elles peuvent avoir des réactions incontrôlées quand elles rentrent dans une église, ou à un certain moment de la prière, ou ça part en live. Bon. Alors, attention aux films comme l'exorcisme, etc., où on fait du cinéma avec ça. Il y a un plaisir un peu malsain à regarder ça en long, en large, en travers. On sait que ça existe, mais Jésus est venu aussi pour chasser les démons. Hein. Donc, on ne se laisse pas du tout, mais pas du tout impressionner. Sauf qu'il faut prendre des armes. Ok. Bon, le niveau supérieur, c'est la possession diabolique, où la liberté de la personne est touchée, sa volonté est touchée, d'accord ? Pas seulement les autres facultés qui sont la mémoire, l'imagination et puis l'intelligence, comme dans le cas précédent. Mais dans la possession, la volonté est touchée. Donc la personne va être soumise, au moins dans des moments de crise, à des trucs qu'elle ne peut pas imaginer. Et souvent, elle ne s'en rappelle pas après. Voilà, ça c'est les influences donc, qui touchent l'homme directement. Et puis vous avez les influences extérieures à l'homme. Donc on va parler d'infestation ou de sortilège. Donc comme vous avez des lieux bénis, vous avez aussi des lieux maudits. Donc le père Francesco Bamonte qui est le président de l'Association internationale des exorcistes, nous a fait voir un jour une vidéo sur la profanation de son église à Rome. Parce qu'il y avait, vous savez, une caméra qui prend des photos toutes les X secondes. Et là, on voyait des gens qui rentrent dans l'église et qui la profanent, mais très très bien organisée. En fait, c'était des satanistes. Bon, donc, il y a eu besoin de faire une prière d'exorcisme et de réparation de ce qui a été fait. Parfois, donc, ça touche les églises. Moi et nous, avec le père Bernard, on exorcise assez souvent nos lieux de prière. Bon, enfin, soyez pas obsédés, n'ayez pas peur. Vous êtes chrétien, donc pas de soucis. Les objets peuvent être maudits aussi, évidemment, ça c'est connu en sorcellerie, les animaux, bien sûr, tout ça, et puis certaines situations. Je pense qu'il est bon, on parle beaucoup de, vous savez, de catastrophes naturelles et tout ça, il est bon de prier sur les situations. Et pour le climat, par exemple, si vous n'avez pas envie que la foudre vous tombe sur la tête. Enfin, je dis ça un petit peu en rigolant, mais moi je crois beaucoup à la prière aussi pour un bon climat. On avait une amie, quand j'étais encore en Vendée, et c'est une pasteur de l'église évangélique, et puis elle nous racontait son dernier voyage chez sa fille aux États-Unis, et puis elle voyait de loin un typhon arriver, vous savez, ça fait là. C'est une espèce de grande colonne là, et puis le siphon arrivait vers le lieu où elle habitait. Quoi. Et donc, elle nous a raconté qu'elle a prié au nom de Jésus pour que ça n'arrive pas. Puis ça, c'est pas passé. Nous avons autorité. Donc, en ce moment, il y a de quoi prier pour la France, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. En ce moment. Donc, pourquoi pas, on portera dans notre prière, dans la messe cet après-midi, que tous ces liens diaboliques, sur notre jeunesse en particulier, soient sautent. Hein. Donc, il y a des situations qui sont porteuses aussi d'influence diabolique. Ça, c'est à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà, voilà. Donc, peut-être pas trop la peine de développer tout ça. Oui. 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 Les animaux peuvent être aussi touchés par des influences diaboliques. Oui. Moi, j'ai déjà vu un troupeau de bœufs, enfin de vaches. Quand le Saint-Sacrement est passé, elles étaient complètement folles. Elles défonçaient même les barrières. Quoi. Donc, en fait, leur maître n'était pas très net. Enfin bref, le moment de se souvenir là spontanément. Donc les animaux peuvent être maléficiés, oui. Et donc, notamment, on le voit ici, hein, donc on va dans les fermes, hein, tout ça. Les vaches vont avoir des avortements, des trucs comme ça, les veaux vont mourir. Bon, ça, c'est des trucs diaboliques. Voilà. Bon, après, est-ce que votre chat a été ensorcelé par la voisine? Je ne suis pas sûr. Mais bon, les animaux peuvent être effectivement bénis. Moi, je bénis toujours les animaux. Mais allez-y aussi, parce qu'on est tous faits pour bénir. Voilà, donc, je ne vais pas trop développer ces conséquences-là, vous avez compris. Hein. On est. Est-ce qu'il faut que je vous le développe? Parce que c'est tout un chapitre. Hein. Ces infestations, elles vont nous embêter sur bien, bien des aspects, notre vie avec Dieu, notre vie de relation avec les autres. Notre vie en nous-mêmes, il n'y a plus de paix, c'est des insomnies, c'est tout ça, enfin, un dérèglement, voilà. Je n'ai pas trop envie de vous parler de tout ça, ce sera un peu long, vu le temps qui nous reste. Par contre, c'est bien de faire encore un petit point sur les portes qui sont ouvertes. aux influences mauvaises éventuellement dans nos vies. Alors je les rappelle, il y a trois portes ouvertes aux influences diaboliques, enfin, il y en a peut-être plus que trois, hein, enfin, on dit trois pour les besoins de l'exposé. Un, le péché personnel, on a vu ça la dernière fois, chaque péché, en fait, nous met en lien avec un démon. Il faut le savoir quand même. Sans voir le démon partout, évidemment, mais il y a un lien avec ce monde des ténèbres dès que nous sommes dans le péché. Et c'est pour ça que l'épître de Saint Jean m'a tellement insisté pour dire que celui qui pêche n'est pas avec Dieu. Il est contre Dieu. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc, le péché. Ensuite, deuxième porte d'entrée, c'est l'hérédité. Ben oui, c'est les droits démoniaques à cause de nos familles. Et puis, troisième porte d'entrée, ce sont les emprises que nous allons subir. Attention, si nous subissons des emprises, il faudra peut-être travailler sur nous. Pourquoi est-ce que nous subissons ces emprises? On verra ça tout à l'heure. Et il y a un certain nombre de facteurs aggravants. Je vous les dis tout de suite, on va les répéter tout à l'heure. Un, les blessures, traumatismes de l'enfance. Deux, la médiumnité naturelle, on peut naître comme ça. Trois, les modifications des états de conscience à travers la drogue, l'alcool, les plantes, le chamanisme, etc. Les troubles psychologiques et psychiatriques. Et puis, évidemment, nos forteresses, nos liens de péché, persistance de schémas mentaux négatifs ou d'habitudes pécamineuses. Bon, le péché personnel, on insiste beaucoup en général sur l'occultisme, mais aussi le péché contre Dieu en général. Vous voyez, Jésus nous révèle que Dieu est Père. Est-ce que nous croyons que Dieu est Père? Souvent, nous prenons en plus Dieu pour un magicien. Et donc, nous essayons des prières. On va parler de prières efficaces. Alors, je vous dis tout de suite que tout ça n'appartient pas au domaine de la vraie foi. C'est le domaine de la magie. Une prière n'est pas efficace. Dieu est efficace. Et par notre foi, nous pouvons obtenir beaucoup. Mais la prière n'est pas efficace. Je vous le dis parce que il y a notamment sur Internet des prières efficaces qui circulent. Tu as essayé cette prière-là? Elle est très efficace. Si on vous dit quelque chose comme ça, dites stop! J'en veux pas. Je ne veux pas entendre parler de ça. Et nous, on peut se faire piéger aussi. Pour qui on se prend? Et vous savez que le démon va exaucer ce genre de prière aussi. Les gens vont gigoter, tout ça, on aura des symptômes, oui. Non, on est trompé à la fois. Parce que il s'agit dans le bocal, c'est tout. Il part pas. Et il part à 3 mètres, il revient. Il s'amuse avec ça. Alors, on peut, avec nos prières magiques, rester, avoir un lien, une porte ouverte au démon. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Bon. Soignons notre relation à Dieu. Il y a encore pas très longtemps, je ne donnerai pas de nom, je t'aime jamais de nom, évidemment. Il y a une dame qui me dit Dieu, il ne m'entend pas. Il n'entend pas ma prière. Moi, je lui ai répondu, c'est un blasphème. Vous blasphémez contre Dieu quand vous dites ça. Donc, vous ouvrez la porte au démon. Continuez si vous voulez, mais ce sera votre choix. Ne dites jamais, Dieu n'entend pas ma prière. Il entend toujours notre prière. Mais si nous ne sommes pas exaucés, il y a plusieurs raisons possibles. selon l'épître de Saint Jacques, c'est que nous prions mal. Nous prions pour le moins, 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 pas pour la gloire de Dieu. Et puis, si nous ne sommes pas exaucés ici et maintenant, c'est peut-être qu'il y a une sagesse de Dieu qui pense et qui prépare des choses meilleures pour nous, ou alors cette grâce-là, mais un peu plus tard. Si vous connaissez l'histoire de Sainte Monique, elle a prié combien de temps pour son fils, pour la conversion de son fils? Non, pas autant. Alors, 20 ans, on va dire 20 ans. Bon, 20 ans c'est long, il y en a qui disent 18 ans. Bon, il faudra qu'on vérifie hein, la prochaine fois. Mais c'est un peu long. Vous voyez, Abraham, on va en parler tout à l'heure, il a 75 ans, c'est déjà pas mal, et il reçoit la promesse d'avoir une postérité hein, immense. Sa femme, elle est stérile. Puis, elle est quand même pas très jeune aussi. Hein. Elle n'a peut-être pas encore 70 ans, mais elle n'est pas très loin. Et vous savez combien de temps, en combien de temps Dieu l'a exaucé? Vous vous rappelez? Alors, Dieu va lui donner une descendance à 99 ans. Bon, si on fait le compte, c'est un peu long, hein, 25 ans à peu près. 25 ans, bah, il s'est un peu découragé, il y a Ismaël entre-temps, il s'est dit non, voilà. Mais c'est ces textes-là qu'on va avoir à la messe aujourd'hui. Alléluia, rien n'est impossible à Dieu. Parfois, il faut attendre. Mais si on veut tout tout de suite, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas très bien chez nous aussi. Hein, la toute-puissance. Mais je me prends pour qui, là? On n'est pas Dieu. On va essayer de soigner notre relation à Dieu. C'est la première porte ouverte, vous voyez? Si on vient là avec, oui, ce prêtre, il est plus fort que ce prêtre-là, ou je ne sais pas quoi, on est dans la magie, ça ne va pas, ce truc-là. Dieu est fort. Voilà. La superstition, évidemment, si vous avez des objets qui portent bonheur. Donc, il y a souvent des gens qui portent des trucs au cou, ils portent bonheur. La clé de vie égyptienne, par exemple. Nous, ben, quand j'étais au Sable d'Olonne, on s'amusait, enfin, on ne s'amusait pas, mais j'exorcisais ces objets. Je demandais aux gens d'aller, vous savez, vous avez une estacade qui rentre dans la mer, hein, puis de balancer ça dans la mer. Alors, on n'est pas très loin de la mer, allez-y. Tous vos gris-gris, quoi. Hein, ça suffit. Toutes les idolâtries, alors... vous savez, on prie Dieu, mais parfois on prie d'autres dieux. On va voir le guérisseur. Bon, pof. Il est où ton Dieu, là? Il faut choisir. Donc, ok, tout ce qui est bon, divination, occultisme, voilà, la voyance, le channeling, aller voir un voyant, stop quoi. Mais Dieu seul connaît notre avenir, mais le démon aussi a ses plans. Donc, si vous allez voir un voyant, eh bien, il va pouvoir vous prédire votre avenir. Sauf que c'est le plan du démon. Et c'est un sort qu'on vous met sur la tête. Vous connaissez tous la sœur Emmanuelle, Amélie de Laurier. Elle avait été voir un voyant en Inde qui lui avait dit qu'elle se suiciderait un jour. Et le jour de son suicide, elle était sur le toit de je ne sais plus quel édifice pour se jeter par terre, quoi. Et puis le Seigneur est intervenu. Alléluia. Donc, on arrête avec les horoscopes, le thème astral. Il n'y a pas de réincarnation, hein, on n'y croit pas. Ça n'existe pas, la réincarnation. Hein. Si vous avez des rêves du Moyen-Âge et autres, ou je ne sais pas quoi, par contre, vous pouvez être en lien avec des ancêtres qui ont vécu des trucs, ça oui. Mais la réincarnation, non. Hébreux 11, il me semble, hein, vous vérifierez. On ne meurt qu'une seule fois. Et Jésus est assez puissant, justement, il n'a pas besoin d'un cycle de réincarnation, il n'a pas besoin de ça pour nous sauver. On est sauvé par le sang de Jésus. Voilà, le spiritisme, interroger les morts, le Ouija, tous ces trucs-là. La magie blanche, les guérisseurs. Bon, peut-être on fera un truc particulier, rien que pour ça, un samedi matin, si vous êtes d'accord. On développera ça. J'ai quelques témoins. On attend qu'ils se préparent. Chaque chose en son temps. Je ne vise personne. Ou presque. Donc, en fait, le magnétisme humain est aussi une porte, j'en suis désolé, mais aux influences démoniaques. Vous allez me dire, oui, mais ça guérit, ça marche. Oui, mais le démon se fait payer. Il y a forcément des conséquences. Soit sur vous, soit sur vos enfants, soit sur vos petits-enfants, etc., etc. Voilà. N'y allez pas, même si dans les hôpitaux, vous avez des gens qui passent le feu, etc. Ou si vous y allez, vous aurez été prévenu. Moi, il y a une dame qui est venue me voir un jour, parce qu'elle avait un zona sur la paupière, là. C'est dangereux. Vous pouvez perdre son œil. Une infection grave, le zona. Alors, moi, je lui ai dit de ne pas aller voir le traiteur, on les appelait comme ça en Vendée. Pas aller le voir. Mais je lui ai donné le sacrement des malades. Elle a guéri en 3 jours. Ah, notre Dieu, il est tout puissant, non? Pas se tromper d'adresse. Mais il a des mœurs assez différentes du démon. C'est pas forcément le grand spectacle. Il a besoin de notre foi, de notre liberté. Ok. Alors, donc, c'est le premier chapitre par rapport à Dieu. On pourrait encore développer plein de trucs, mais là, on n'a pas le temps, vous avez compris. Ensuite, vous avez aussi, si on suit les 10 commandements, 3 premiers par rapport à Dieu, on les rappelle, tiens, les 10 commandements? Peux les rappeler? Alors, tiens, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu adoreras lui seul. Deuxième commandement. Ah, deuxième commandement parmi les 10, quoi? Tu ne jureras pas le nom de Dieu, oui. Troisième commandement. Okay. Bah, il va falloir réviser le catéchisme. Hein. Donc, le troisième commandement, c'est qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On sanctifiera le jour du Seigneur. D'accord? On va à la messe, mais pas que. Parce que la messe, ça dure combien de temps? 1 heure. Il reste combien de temps à sanctifier? 23 heures. Vous voyez ce qu'on fait le dimanche. Bon. Le quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Moi, je pense que ce qui se passe dans les rues en ce moment, c'est vraiment diabolique. Parce que c'est le péché contre l'autorité. Contre l'autorité parentale. Si des jeunes ne se soumettent plus à l'autorité, si moi je ne me soumets pas à l'autorité de mon évêque, de mon curé, vous voyez le résultat. Donc là, on a une vraie porte ouverte. Ok? Donc c'est aussi dans. Voilà. Ensuite, cinquième commandement. Tu ne tueras pas. Alors, si on a essayé de tuer, si on a essayé de se suicider, si on a désiré la mort, si on a des désirs de mort pour nous-mêmes, sur les autres, si on a avorté, si on est le père ou la mère d'un enfant avorté, si on refuse de faire le deuil d'une personne, qui est décédé. Alors, ce sont des portes ouvertes aux esprits de mort. Alors, rassurez-vous, il y a un remède. Un, demandez pardon à Dieu. Pour les enfants avortés, on va faire célébrer une messe. Consécration de ses enfants, baptême de ses enfants dans l'esprit, qu'ils soient baptisés dans le sang de Jésus, mais il y a une démarche à faire. Nous, on le fait souvent parce qu'on remarque qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dus à l'avortement. Donc il faut qu'il y ait une vraie contrition devant Dieu. On en a déjà parlé, pardon si je me répète. Si vous êtes confessé d'un avortement entre deux péchés un peu ridicules, ben, il faudra peut-être recommencer avec une vraie contrition. Et demander pardon aussi à l'enfant qui n'a pas pu vivre sa vie ici. Et appeler le sang de Jésus. Des vraies funérailles, une messe au moins, qui soit consacrée à Jésus par Marie. Et qui soit vraiment baptisée dans le sang de Jésus. Voilà. Dans ce chapitre, par rapport à la mort, moi, je vais inclure aussi toutes les addictions à la drogue, à l'alcool. Ces addictions, en fait, qui sont une porte ouverte à des esprits de mort. Et parfois, vous voyez, quand on s'adresse bon, à des guérisseurs, etc., donc on va toucher des énergies paranormales. Quelque part, ça va toucher aussi ce commandement. Ce sont des forces de mort, mais qui se présentent comme des forces de vie. Vous êtes en pleine forme en permanence, quoi. Ok. Mais quand vous arrêtez, vous êtes absolument épuisé, comme un espèce de baudruche qui s'est dégonflé. Quelque part, on a joué avec la mort. Ok. Sixième commandement. Non, sixième commandement, c'est par rapport à l'adultère et toute la sexualité désordonnée. Bon, là, malheureusement, on est vraiment dans des trucs très courants. Donc, avoir des relations sexuelles avec une personne infestée, dans le cadre de l'adultère ou de la fornication, c'est beaucoup plus grave qu'on peut l'imaginer. On a été béni, exorcisé une maison il n'y a pas très longtemps, dans la chambre du lieu de l'adultère, plusieurs fois, on avait mal au cœur, envie de vomir. Cette maison ne se vend pas, comme par hasard, etc. Donc attention à ces trucs-là. Donc, tout ce qui peut être addiction, etc., pornographie, voilà. Ensuite, ben on a parlé du vol, ben c'est le rapport à l'argent, tout ça, et ben tout le reste. Hein. Donc, convoiter le bien d'autrui et la femme d'autrui, bon, c'est le dernier commandement, d'accord ? Donc, tout ce qui concerne l'argent, la justice, voilà. Alors, dans un deuxième chapitre, là, c'était par rapport au péché, porte ouverte. Donc, c'est vrai qu'on a intérêt à se confesser souvent. La Sainte Vierge à Médiogorie nous dit une fois par mois. Bon, en fait, vous pouvez vous confesser plus souvent si vous voulez, mais pas moins d'une fois par mois. Parce que moins on se confesse, et moins on voit son péché, et plus c'est du n'importe quoi. Plus, c'est, vous savez, la paille et la poutre. Bon, la poutre, elle est toujours à l'extérieur, on devient un peu parano. Si on se confesse, mais vraiment dans le Saint-Esprit, hein, d'accord ? Dans le Saint-Esprit. Pas pour avoir fait sa petite confession. Ouais. Eh bien, on va remettre les pendules à l'heure devant Dieu et nous, on sera plus en vérité. La poutre, elle est à l'intérieur. Et la poutre, c'est notre organe. C'est notre orgueil, il paraît que ça meurt quelques minutes après notre mort physique. Donc la poutre, il faut toujours la mettre derrière. Et ça c'est notre combat. Donc confessez-vous, c'est un conseil d'amis. Deuxième porte ouverte, c'est l'hérédité. L'hérédité chargée, l'influence de nos défunts. Si on a un membre de sa famille, sa généalogie qui est impliquée dans tout ce qu'on vient de dire. Enfin, il y a des trucs peut-être un peu plus forts, comme les pratiques occultes ou les sociétés secrètes incompatibles avec la foi chrétienne, comme la franc-maçonnerie. Voilà, influence du grand-père franc-maçon, même s'il est mort. Et là, je vous promets que j'aurai plein d'histoires à vous raconter à ce sujet-là. Bon, donc, si dans votre généalogie, il y a eu des meurtres, des suicides, des avortements, des pratiques perverses, bon, on ne va pas refaire la liste. Mais aussi, dans l'hérédité, on peut être victime de malédictions. Bon, alors ce qu'il faut peut-être rajouter là aussi, c'est, et là ce n'est pas forcément de l'ordre du péché, c'est quand il y a un enfant mort, le jumeau, votre jumeau qui est mort in utero. Vous pouvez garder un lien avec le mort. Et ça, c'est un peu dans l'inconscient. Et il va falloir prier pour ça. Alors moi, je vous donne juste un exemple, parce que pour moi, c'est un bon souvenir. C'est un homme qui m'a parlé de sa difficulté à s'engager dans une relation affective. Il avait un projet de mariage, c'était vraiment très bien, mais il n'y avait rien à faire. Il n'arrivait pas à faire le pas. On a discuté et il m'a avoué que dans le ventre de sa mère, il y avait une petite fille avec lui. Mais pourtant, ils avaient fait tout ce qu'il fallait. Ils avaient eu la messe pour l'âme de l'enfant, tout ça. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi ça pouvait avoir une influence. Et en fait, on a prié pour couper le lien entre lui et sa sœur. Parce qu'il avait fait comme une alliance avec sa sœur. D'ailleurs, elle avait un nom, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Figurez-vous que je le vois un an après, il était marié, puis sa femme attendait un petit. Donc, alléluia. Troisième porte d'entrée, c'est tout ce qui concerne les emprises maléfiques subies. Donc, vous êtes victime. Ok, ça existe. Soyons très prudents, parce que chacun d'entre nous, enfin, nous avons tendance à la paranoïa. Bon, je me mets dedans. Je me mets dedans parce que c'est beaucoup plus facile de dire c'est la faute d'un tel, pas de ma faute. Donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, oui, c'est les voisins, c'est la voisine, c'est machin, j'ai regardé, il m'a regardé d'un drôle d'œil. J'ai d'ailleurs été voir le médium, il m'a dit que c'était ça. Parce que quand vous allez voir le médium, j'ai remarqué ça, il vous dit « Oh, on vous veut du mal !» Et c'est un homme ou c'est une femme de tel âge, qui peuvent se servir des pensées pour vous renvoyer ça à la figure. Donc vous êtes très content, mais est-ce que c'est ce que vous pensiez? Alors, ok. Donc, c'est toutes les pratiques occultes qui sont subies. Par exemple, j'ai vécu un jour un exorcisme d'une jeune, elle avait 14 ans, elle était haute comme ça. Bon, et pendant la prière, ça se passait mal. En fait, on a vu que cette jeune, elle avait été consacrée aux démons par sa marraine. Le jour de son baptême chrétien, d'ailleurs. Bon. C'est pour ça que je suis plutôt pour, moi. Elle a la forme extraordinaire pour le baptême. Enfin, fermez la parenthèse. Je crois qu'il faut aussi exorciser les bébés. Enfin, bon. Donc, c'était extraordinaire parce que moi, avant, j'avais une assistante de prière. Si vous la voyez, quand même, elle est de taille. Enfin, bon, j'espère qu'elle me pardonnera de parler comme ça. C'est une sœur, vous imaginez, une sœur en habit des béatitudes. C'était vraiment de taille, quoi. Alors, la petite, avec une seule main, elle la balançait par-dessus. Donc, voilà. Elle, son problème, c'est parce qu'elle avait été consacrée au démon. Donc, c'était pas elle. Donc, on a évidemment demandé au Seigneur de couper tout ça, et tout va bien, merci Seigneur. Voilà. Donc, si vous avez utilisé, évidemment, si vous avez été victime de rituels occultes, vous avez été voir des sorciers ou je sais pas quoi, vous êtes victime de satanisme, de magie noire. L'envoûtement, ça existe, c'est vrai. Bon, si vous avez subi de la magie blanche, bon, si vous avez eu recours à des thérapies occultes. Bien, tout ça, ça peut être des portes ouvertes, aussi de fréquenter des lieux. Bon, ça dépend aussi de votre sensibilité. Il y a des lieux infestés, certaines personnes, ça leur fait rien. Moi, nous avons accompagné une famille, ils vivaient dans un château en région nantaise. Le château, il était hanté, il y avait des fantômes la nuit, tout ça. Mais en fait, il n'y avait que deux ou trois de la famille qui les voyaient. Le mari, il ne voyait rien du tout. Donc ça s'attaquait plutôt à la dame, et puis surtout à un de ses fils. On les a eus en exorcisme. Et en fait, ils étaient infestés à cause de Dieu, parce qu'ils sont très très sensibles. Bon, c'est une histoire qui s'est bien terminée. Voilà. Alléluia. Voilà. Les influences qui vont passer par les facultés mentales, si vous avez été vous-même objet d'endoctrinement et tous ces trucs-là, de manipulation mentale, si on a fait des révélations sur l'avenir, bon, les voyants, tout ça. Les influences qui passent par les cinq sens, hein, si vous regardez du porno ou dans certains films, certaines musiques porteuses de messages maléfiques, vous connaissez tout ça. Et puis, évidemment, les objets maudits, les objets infestés, tout ça. Donc, je passe un peu vite, parce que tout ça, vous le savez, mais c'est bon de se le rappeler. Quels sont les facteurs aggravants ? Donc, vous voyez, si on fait un peu le point, là où il faut vraiment travailler, c'est notre vie de conversion. Demandons au Seigneur qu'il nous montre là où on doit se convertir. Vous savez, on pourrait se confesser tous les jours. On dit, mon père, je ne sais pas quoi dire en confession. Bon, ben, si, je vais vous donner des idées. J'ai pas assez aimé, j'ai mal aimé. Bon, ça peut s'arrêter là, mais c'est déjà pas mal, non ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Et puis, aimez-vous comme je vous ai aimé. Vous voyez, on peut se confesser tous les jours. Bon. Alors, donc, le péché, l'hérédité et les emprises. Bon, les facteurs aggravants, les blessures intérieures graves. Avec des traumatismes. Je pense aux abus sexuels, par exemple, les viols, les incestes, ces trucs-là. Bon, ou si vous avez été vous-même abandonné par un parent. Bon, tout ça, ça laisse des traces. Là, il est bon de demander une prière de guérison, ce qu'on appelle une prière de guérison. Pacification, si vous préférez. Parfois, ce sera peut-être bien de voir ça aussi en psychothérapie. Bon, il y a des états aussi psycho-affectifs qui sont traumatisants, comme suite à des emprises, des manipulations, des exploitations sexuelles. Bon, voilà. Il y a tout ce qui est du domaine des troubles psychiatriques et psychologiques. Pourquoi nous ne prions pas l'exorcisme sur un malade psychiatrique ? Parce que déjà, la maladie psychiatrique ouvre des portes aux démons. Donc, en général, on demande à la personne de se soigner et après, éventuellement, on peut prier pour elle. Bon, même si ça m'est arrivé de prier sur des gens malades psychiatriques, oui, mais attention, parce que la maladie psychiatrique peut être une porte ouverte. Et donc, ces personnes-là doivent aussi, le chemin pour elles, ça sera comme nous, hein, la conversion. J'ai prié très longtemps, moi, pour une dame qui avait des infestations terribles. C'était des crises de possession, ça les prenait dans l'église, et je ne vous raconte pas quelle tête elle avait. Donc, il fallait l'attacher, etc. Mais dans ses troubles, en plus de la schizophrénie, et elle était obsessionnelle, elle était aussi paranoïaque. Et donc, tant que la paranoïa n'était pas réglée, c'était mis dans la tête que son mari lui en voulait du mal, et bien évidemment ça continue. Donc elle a été mieux prise en charge au niveau psychiatrique, elle n'a pas besoin de prière. Alors, je vous promets qu'on a prié des années pour elle. Moi j'ai accepté de prier sur elle parce qu'elle a été prise en charge au niveau psychiatrique. Jusqu'au jour où je me suis dit, cette prise en charge ça va pas. Je nommerai pas l'hôpital psychiatrique en question. Lamentable. franchement lamentable. Bon, là, elle a trouvé un bon plan. Ok. Ensuite, ce qui peut ouvrir, ce qui est un facteur aggravant, c'est tout ce qui est modification de l'état de conscience. Donc, à travers la drogue, l'alcool, ça c'est le plus courant. Mais ça peut être aussi sous des trucs, même sous hypnose, quoi. Bon. Ensuite, vous avez un autre facteur aggravant qui est l'hypersensibilité et la médiumnité. Voilà. Souvent, les gens hypersensibles sont des capteurs. Donc là aussi, il y a une conversion. La conversion de notre hypersensibilité. Que cette hypersensibilité soit vraiment mise dans le Seigneur. Voyez. La conversion, ce n'est pas juste hein, je fais ma prière le matin, je vais à la messe le dimanche. Non, c'est pas ça. La conversion, c'est une consécration de soi-même à Dieu dans l'instant présent. Vous voyez la différence? J'espère. Bon, et puis, on peut citer les relations désordonnées avec le monde invisible par le corps et ses énergies, mais c'est dans le même chapitre que la médiumnité. Hein. Et puis enfin, c'est cette persistance de schémas mentaux négatifs. Vous avez des gens, et on fait peut-être tous partie de cela, qui sont victimes tout le temps. On est victime encore. Donc, on est dans cet état où on va démontrer que ça ne va pas, quoi. Ça ne va jamais et ça n'ira jamais. Alors occupez-vous de moi, 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 occupez-vous de moi, moi, moi. Vous voyez ce que ça fait comme résonance? C'est le moi qui est... Puis Dieu est comme réduit à une aide. Mais où est ta foi? Arrêtons d'être victime. On en parlera une autre fois, la prochaine fois, je pense. Parce que vous avez Saint Jean Chrysostome, il dit quelque chose très très choquant. Non, on en parlera la prochaine fois. Il dit que, en fait, on n'est victime que de soi-même. Regardez Jésus qui est la victime par excellence. Il a tout l'enfer contre lui. Et en fait, il réagit. Comment? Par l'obéissance, c'est-à-dire l'amour. Voilà. Et donc, il n'est pas victime. Dans le sens où on l'entend. Pauvre Jésus, personne ne t'aime. Oh. Ne soyons pas victimales. C'est la meilleure façon aussi d'attirer des démons. C'est se plaindre. Alors vous savez, alors on en parle un petit peu, mais on en parlera la prochaine fois. Regardez dans l'Exode, quand les gens se sont plaints au désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une malédiction sur eux. Ils ont rencontré les serpents. Il y en a beaucoup qui sont morts. La plainte, quand elle n'est pas évangélisée, on a le droit de se plaindre, hein, bien sûr. J'ai mal là, mais tout de suite, on donne la solution. Seigneur, je suis malheureux, mais toi, tu es mon sauveur. Allez jusqu'au bout. Dites pas, Seigneur, je suis malheureux, et moi. Bon. Et ça y est, on construit sa prison. Souvent, la dépression est un enfermement en soi. Non. Oui, on a le droit de souffrir, mais notre souffrance, qu'elle soit mise en lien avec Dieu tout de suite. Pas de plainte. La plainte est une porte ouverte aussi aux influences démoniaques. Bon, porte ouverte, mais qui n'est pas une porte ouverte. Il y a un cas particulier des personnes tourmentées à cause de leur amour pour Dieu. Par exemple, Sainte Mariam de Bethléem, qui est passée à Pau, vous savez, pendant un certain temps. Elle a eu un état de possession pendant 40 jours. Le démon, il a demandé à sortir parce qu'il n'en pouvait plus. Vous avez une sainte, une bienheureuse, Alexandrina de Balazar. Elle est morte en 1955. Et voilà ce qui est écrit d'elle. « Viens dans mes tabernacles, viens me consoler, viens réparer. » Elle dit, après la communion, il me semblait que je traitais Jésus comme un étranger. Il me semble porter sur moi tous les péchés du monde, que tous les crimes sont les miens. Ainsi, je vis sans aucune consolation au milieu des ténèbres, tenant à ma place de sentinelle auprès de ses tabernacles, partout où il habite au Saint-Sacrement. Depuis longtemps, les démons l'assaillaient par des menaces, des voix, des suggestions de blasphème et des paroles grossières. J'ai pu voir et entendre cette paralytique épuisée par les souffrances et ne pesant que 33 kilos se débattre violemment, tenter de casser les fers de son lit, se mordre. À ces occasions-là, quatre hommes, même costauds, n'arrivaient pas à l'immobiliser. Pendant ces luttes, je l'ai entendu prononcer des blasphèmes et des paroles inconvenantes dont elle ignorait le sens. Dans un de ces moments, j'interrogeais le démon, lui demandant en latin qui il était. Il me répondit « Satan, et je te hais ». Ce jour-là, je célébrais la messe dans sa chambre, et je l'offris sans l'avoir prévenue pour elle, pour obtenir la fin de ses vexations diaboliques. À la fin de la messe, je m'approchai de son lit. Elle me dit « Notre Seigneur m'a dit qu'il ne peut pas accorder ce que vous lui avez demandé, mon Père, parce qu'il a besoin de ses souffrances pour la conversion des pécheurs. » Alors je l'interrogeai « Mais qu'ai-je demandé à notre Seigneur ?» Elle me répondit « Naturellement de me libérer de ses attaques. » Je pensais que dans de telles circonstances, il m'était impossible de ne pas offenser Jésus. Mais Jésus me dit que je ne l'offensais pas, mais qu'il ne pouvait me délivrer de ces horribles combats, car il en retirait beaucoup de réparations et des trésors de grâce pour les pauvres pécheurs. Regarde avec tendresse ta souffrance, heureuse de voir la gloire que tu me procures, les pécheurs que tu me sauves et ce qui au ciel est préparé pour toi. Dis à ton Père spirituel, je veux que ceci soit annoncé au monde entier avec force, avec la force d'un tonnerre, avec la clarté d'un éclair. Pénitence, pénitence, pénitence. Le jour de la catastrophe arrivera bientôt. » Alors en fait, ces paroles, elles ont été écrites un an avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ce sont des âmes dites victimes, c'est très choquant à entendre. Dieu permet, même demande, leur demande des souffrances. Marthe Robin en est un exemple aussi. Bon, rassurez-vous, vous n'en faites pas partie a priori, sinon vous ne seriez pas là. Mais bon, c'est un mystère. Et des personnes qui se plaignent parce qu'elles ne sont pas complètement libérées, bon, on va leur dire aussi, vis ta souffrance avec Jésus. Et là, il y en a un qui va être quand même bien embêté. Parce que ce qu'il attend, c'est une révolte contre Dieu. Il ne m'a pas encore libéré, Dieu n'écoute pas ma prière. Bon, des paroles blasphématoires comme ça. Il s'en frotte les pattes, l'ennemi. Par contre, si, par beau temps ou mauvais temps, on dit « Loué sois-tu, Seigneur, et je proclame ta victoire, je te bénis. » Alors là, c'est une victoire. Et ce n'est pas forcément vous qui êtes libérés, mais c'est pas mal de gens qui le sont. Connaissez cette histoire, je terminerai là-dessus. Est-ce qu'il faut m'arrêter ? Le petit Yaakov, qui est un des voyants de Medjugorje. Quand il était tout petit, au début des apparitions, la Sainte Vierge dit, tu sais, il faut prier, tu pries pas assez, je vous salue Marie. Et donc, et un jour, il courait, ce qu'il rejoint ses copains pour un match de foot, et puis il y a la parole de la Sainte Vierge qui lui revient à la tête. Et puis il s'arrête, et puis il prie assez vite, je vous salue Marie. Et en fait, quand il a eu la prochaine apparition de la Sainte Vierge, elle l'a amené en Chine, au chevet d'un mourant. Et elle lui a dit, c'est ta prière qui sauve cet homme maintenant. Cet homme est arraché au pouvoir du démon, parce que tu as bien voulu prier. Alors, priez mes enfants. C'est toujours le message de la Sainte Vierge. Mais la prière, dans toujours, la vraie, hein, que notre prière soit pénétrée d'actions de grâce, Philippiens 4. Pas je prie, Seigneur, mais tu as intérêt à m'exaucer. Et qu'est-ce que tu fais? Non. Que ma prière soit dans l'action de grâce. Alors priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. C'est le message de la Sainte Vierge à ton main. Voilà, merci pour votre attention. On va s'arrêter là. Le chemin de délivrance, ce sera le thème de la prochaine fois, pour ceux qui peuvent venir début août.